Amen, Jésus. Alléluia. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, l'Écriture sainte, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 31, où nous lisons l'appréciation de Dieu concernant Ézéchias et concernant son œuvre. 2 Chroniques, chapitre 31, verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu, pour le service de la maison de son Dieu, pour la loi et pour les commandements. Relisons le début du verset 21. Il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Et voilà quelque chose qui n'est pas extraordinaire, voilà quelque chose qui n'est pas inhabituel. Parce qu'il y a dans le monde une règle générale, qui veut que ceux qui font leur œuvre de tout leur cœur réussissent. Tandis que ceux qui ne le font pas échouent. Ainsi, dans les affaires, ceux qui s'élèvent, ce ne sont pas ceux qui sommeillent derrière le comptoir et qui évitent les clients, hein, et leurs employeurs vont découvrir rapidement ceux qui mettent de l'énergie dans leur travail. Quels sont ceux qui vont arriver à la célébrité ? Eh bien, ces gens-là, ils ne se sont pas couchés au lit un soir pour se réveiller célèbres le lendemain matin. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. En tout cas, ils ont dû accomplir beaucoup de travaux pour y parvenir, parce que, vous savez, jusqu'à ce jour, Dieu n'a jamais donné de moisson aux paresseux, sinon des moissons d'épines. Hein. Et il est universellement reconnu que si un homme veut prospérer, il lui faut être diligent dans les affaires. Et ça, ce n'est pas vrai seulement pour les affaires économiques, mais dans les autres domaines de l'existence également. Si un homme veut faire des découvertes dans les sciences, il ne va pas tomber dessus par hasard. Ou alors, c'est très exceptionnel. Et même ceux qui tombent dessus par hasard sont des gens qui étaient à l'œuvre avec acharnement. Et puis à ce moment-là, donc, ils y sont parvenus. Si un homme veut devenir un médecin éminent, ben, lui, il faut fréquenter les facultés de médecine, bien sûr, les hôpitaux, etc. S'il veut atteindre une haute position dans le barreau, bien, lui faut là encore étudier nuit et jour les volumes de loi, fréquenter les tribunaux. Et de nos jours, plus que jamais, il n'y a d'espoir que, pour qu'un homme arrive à quelque chose, qu'il s'y consacre de tout son cœur. C'est une nécessité. Et je dirais, il en est de même dans les choses de Dieu qu'en toute autre chose. Et je ne voudrais pas, bien sûr, que nous traitions la piété comme une affaire financière, mais malgré tout, ne serait-il pas normal que nous y mettions au moins autant d'énergie, de force et de sérieux, puisque ça le mérite bien plus. Ça le mérite bien plus que tout autre. Vous savez, on peut voir que même de fausses religions sont devenues grandes et puissantes. Pourquoi ? Parce qu'il s'est trouvé des hommes qui ont pu même, je ne dirais pas, être sincères dans leur cœur jusqu'à un certain point, mais qui ont agi de tout leur cœur et de toute leur force, et ils ont obtenu un certain succès, et même parfois un succès certain. Et à combien plus forte raison doit-il en être ainsi pour la vraie foi ? Je dirais que notre seul espoir de faire avancer le royaume de Dieu avec le secours du Saint-Esprit pour la conversion des gens dans le monde, c'est dans le développement de cette énergie. Et cette énergie, elle est malgré tout en nous. Nous l'avons tous, si nous le voulons, dans la manifestation pratique de cette véritable consécration qu'il doit y avoir dans chaque chrétien. Remarquez bien que pour que l'Église puisse naître et grandir, pour que bien des païens soient convertis au départ, suivant ce qu'il nous est dit dans les évangiles et dans les actes des apôtres, vous apercevez que ce ne sont pas de grands savants qui ont conquis le monde païen au départ. Hein. Lorsque vous lisez les tablettes sur les catacombes, vous avez la preuve évidente qu'ils arrivaient à peine à épeler leur propre nom. Hein. Ce n'est pas par la gloire de la philosophie, ce n'est pas par le pouvoir de l'éloquence, ce n'est pas ça qui a rendu ces premiers chrétiens puissants, c'est leur obéissance à la parole de Dieu et leur singulière consécration. Je dirais que l'Église était à ce moment-là tout en feu. Elle était comme un volcan, vous savez, elle n'était peut-être pas aussi élevée et majestueuse que d'autres montagnes qu'il y avait tout autour, mais ces dernières étaient surmontées par des glaciers, tandis qu'elle, elle envoyait des vérités brûlantes comme des fleuves de lave qui brûlaient tout sur leur passage et qui couvraient le pays. Et c'est comme ça qu'il doit en être aujourd'hui, et c'est ainsi qu'il en est en vérité. Quels sont ceux qui sont les plus utiles dans l'œuvre de Dieu ? Donc, ce sont les hommes qui entreprennent des choses de tout leur cœur. Quels sont ceux qui sont les plus puissants pour Dieu ? Est-ce que ce sont les plus instruits ? Est-ce que ce sont ceux qui ont le plus de talent ? Est-ce que ce sont les plus riches ? Non. Vous voyez toujours que ce sont les plus zélés. Et ceux dont le cœur est en feu pour Dieu. Et la grande question est là, qui parmi nous fait le plus pour Dieu aujourd'hui ? Je vais vous le dire. Donnez-moi un thermomètre spirituel, si quelque chose comme ça existe, avec lequel je puisse mesurer la chaleur de votre cœur. Et je vous dirai l'étendue de votre utilité pour Dieu et de votre succès. Si votre cœur est froid pour Dieu, même si vous avez plein de capacités, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans l'œuvre de Dieu. Hein ? Mais si votre cœur est brûlant pour lui et brûlant d'amour pour les hommes, alors vous faites du bien. Alors vous en ferez. Alors Dieu vous bénit comme il a béni Ézéchias, qu'il a fait de tout son cœur et qui a réussi. Amen. Alors au point où nous en sommes parvenus, avant de nous plonger plus avant dans notre sujet, il est nécessaire de faire un rappel, une mise au point importante. Parce qu'à cause de la doctrine de l'absolue prédestination, beaucoup de chrétiens, et en particulier évangéliques, ont perdu une grande partie de leur consécration et de leur zèle, et bien souvent même la totalité de leur motivation. Parce qu'ils se sont appuyés sur l'idée que, soi-disant, Dieu saurait tout d'avance, que Dieu aurait tout préparé d'avance et qu'il saurait à l'avance quels sont ceux qui sont sauvés, quels sont ceux qui sont perdus. Et ils se sont dit, et ils se disent encore, à quoi bon faire des efforts ? À quoi bon évangéliser même ? À quoi bon dépenser son énergie ? Puisque de toute façon, que nous le fassions ou non, le résultat sera le même, puisque tout est déjà su et joué et décidé d'avance. Donc, c'est une terrible doctrine qui prétend glorifier la souveraineté de Dieu, alors qu'en fait, elle ne fait de lui qu'un marionnettiste qui ne fait que manipuler les humains en leur donnant une illusion de liberté, alors qu'ils sauraient, d'après eux, que de toute façon, leur destin serait tracé quoi qu'ils fassent. Et donc, ce n'est pas glorifier Dieu que fait cette doctrine, mais c'est bien plutôt le rabaisser au rang de fabricant de robots téléguidés et préprogrammés. Alors que la parole de Dieu nous dit d'une façon extrêmement claire, d'une façon extrêmement générale, du début à la fin, qu'il nous a créés libres de choisir, pleinement responsables de nos choix et de leurs conséquences. Ça veut dire aussi qu'il ne sait pas ce que nous allons décider et choisir. Non pas, encore une fois, qu'il ne pourrait pas le savoir, mais parce que volontairement, il a pris le risque de notre liberté. Parce que volontairement, il s'est limité. Et ceci par amour réel, par amour profond pour nous, car il est un Dieu d'amour. Et l'amour ne force pas, l'amour ne téléguide pas, ne manipule pas ceux qu'il aime. Et si Dieu attend, et s'il espère l'amour en retour, c'est en nous laissant la liberté de le faire ou de ne pas le faire, de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Car un amour forcé n'est pas un véritable amour. Et bien sûr, il y a des domaines importants et généraux dans lesquels Dieu sait ce qui va se passer et maîtrise des enjeux. C'est à cause de cela qu'il y a des prophéties dans l'Écriture, dont beaucoup sont déjà accomplies, qui s'accomplissent encore aujourd'hui et qui vont s'accomplir de manière assurée dans les temps à venir. Car Dieu est le maître des temps et des circonstances et il conduit toutes choses vers les buts qu'il a fixés. Mais dans ce cadre général, global qu'il a établi et qu'il poursuit, il reste volontairement dans l'incertitude en ce qui concerne notre propre choix et notre propre engagement personnel. Il nous exhorte, il nous supplie, il nous invite à nous engager pour le suivre, pour le servir avec zèle, mais il ne force pas. Il ne force pas. D'où résulte cette nécessité que l'homme participe pleinement et activement de tout son être à l'œuvre de Dieu, parce que sa part est incontournable, sa part est indispensable. Dieu ne fera pas les choses à notre place. Hein, autant il donne des promesses excellentes de soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Autant il va faire des prodiges et des miracles pour accompagner ceux qui s'engagent avec détermination dans le service pour Dieu. Autant il va fortifier puissamment ceux qui vont résolument au combat spirituel. Autant il veillera à accomplir soigneusement toutes ses promesses en faveur de ceux qui se consacrent à lui pour le suivre et pour faire sa volonté. Autant aussi il ne fera pas le travail à notre place, il ne donnera pas de victoire sans combat. Hein, et autant encore, il n'accomplira pas ses promesses pour les paresseux, pour les poltrons et pour les incrédules. Hein. Autant encore, il ne bénira pas les tièdes, ni ceux qui s'illusionnent sur leur état. Voyez comment Josué a conquis le pays. Hein, donc, c'est parce qu'il a été résolu, c'est parce qu'il a été zélé, c'est parce qu'il s'est confié en la parole de Dieu et en ses promesses, c'est parce qu'il s'est levé de bon matin, lui et tout Israël avec lui, c'est dit plusieurs fois dans le livre, hein. C'est parce qu'il est écrit, par exemple, fatigué mais poursuivant toujours, qu'il a vaincu toutes les sortes d'ennemis redoutables qu'il pouvait y avoir dans le pays. Et c'est parce qu'il a fait ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, qu'il a été victorieux tout au long. Mais remarquez bien, a contrario, qu'il n'a pas pu être victorieux à la place des chefs de tribus qui ont eu ensuite à conquérir chacun leur part d'héritage. Le temps venu pour cela. Et voyez à ce moment-là les compromissions, voyez les échecs, voyez les défaites, voyez les contaminations par l'adversaire qui déjà apparaissent dans la deuxième partie du livre de Josué et encore plus dans le livre des Juges. À l'exception notable de Caleb au début du livre des Juges. Beaucoup moins de miracles de Dieu. Est-ce qu'il aurait oublié son peuple ? Est-ce que la main de l'Éternel serait devenue trop courte ? Non pas, mes amis. Mais le seul facteur différent dans l'équation, c'est celui du manque de leurs propres ailes, du manque de leur consécration, du manque de motivation, du manque d'engagement. Oui, voilà la grande explication, par exemple, à la lamentable fin du livre des Juges. Voilà. Et nous pourrions prendre d'autres exemples. Hein, par exemple, Esdras. Esdras, si Esdras n'avait pas saisi avec zèle les promesses de Dieu, telles que révélées et expliquées spécialement par le prophète Daniel, s'il ne s'était pas engagé de tout son être dans cette entreprise qui paraissait vouée à l'échec aux yeux de beaucoup, hein, qui en tout cas était hautement hasardeuse à vue humaine, qu'en aurait-il été de l'accomplissement extraordinaire de sa mission ? Et je dirais que c'est encore plus évident dans le cas de Néhémie, parce que là, les ennemis, là, l'opposition sont encore bien plus considérables. Et s'il n'avait pas eu un zèle ardent, s'il n'avait pas eu un engagement total, s'il n'avait pas eu une entière consécration, croyez-vous que Dieu l'aurait soutenu comme il l'a fait ? S'il avait commencé à faire des compromissions avec Sanballat le Horonite, avec Tobija le serviteur ammonite, ou s'il avait ralenti le rythme des travaux de construction de la muraille, ou s'il avait ménagé ceux du peuple de Dieu qui étaient tentés d'arrêter de travailler, il est évident que Dieu ne l'aurait pas soutenu et n'aurait pas puissamment béni ainsi. Mais il l'a fait. Il l'a fait parce que cet homme avait un amour puissant pour Dieu qui se démontrait par des actes, des travaux et des combats pleins de zèle. Amen. Et évidemment, le Seigneur Jésus nous donne sur ce point l'exemple majeur, afin que nous suivions ses traces. Si Jésus prenait le temps d'annoncer l'Évangile en tout lieu, s'il allait de lieu en lieu guérissant toute maladie et toute infirmité, s'il parcourait le pays de long en large infatigablement, s'il démontrait ainsi que le zèle de la maison de son père le dévorait, si le travail de son âme s'accompagnait continuellement d'un puissant travail de son corps, est-ce que c'est que pour que les chrétiens d'aujourd'hui ne fassent rien ? Hein ? Qu'ils se reposent sur des lauriers qu'ils n'ont pas ? Qu'ils se croient plus grands que Jésus pour ne pas avoir besoin d'évangéliser alors que lui le faisait ? Pour ne pas avoir besoin de prier pour les malades alors que lui considérait que c'était nécessaire pour mettre en évidence le message de l'évangile ? Et si tout cela nous est dit, tout cela nous est expliqué, répété avec soin et beaucoup de détails, non pas dans un évangile, mais dans quatre évangiles, hein ? Donc, n'est-ce pas pour que nous fassions pareil ? Et n'est-ce pas pour que nous le fassions avec zèle et de tout notre cœur ? Et bien sûr, le temps nous manque pour parler de l'apôtre Paul. Nuit et jour à l'œuvre, dit-il, à un moment, pour n'être à charge aucun de vous. Vous savez, s'il y a quelqu'un à qui vous n'allez pas raconter que les âmes se convertissent à Christ d'un simple claquement de doigts, en attendant passivement que ça se fasse tout seul, par l'opération d'une espèce de souveraine, mystérieuse volonté de Dieu qui ferait tout à la place du croyant, et pendant que lui resterait là les bras ballants, eh bien, c'est bien celui qui a dit « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns », qui a continué en disant « C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi », ou qui a dit encore « Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, vers la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ », et qui finit en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé sa venue, aimé son avènement. C'est le zèle, mes amis, c'est la consécration, c'est le feu qui explique le succès de son ministère et l'approbation toute spéciale de Dieu sur lui et l'autorité du message que Dieu lui a confié. Amen, amen. Voilà, je referme cette grande parenthèse et nous voici revenus à notre sujet. Plusieurs points importants, dont voici le premier. Qu'est-ce que le cœur entier a comme effet sur le chrétien? Premier chapitre. Les effets d'un cœur entier, d'agir avec un cœur entier sur le chrétien. Tout d'abord, ça va le faire réfléchir. Ça commence par là. Le faire réfléchir d'un cœur entier pour son Dieu et pour son maître. Vous savez, c'est là-dedans que la victoire se gagne ou qu'elle se perd. C'est dans nos pensées que les choses se passent au départ. Là-dedans, vous avez quelque chose qui est l'organisme le plus complexe de toute la création. La création la plus magnifique, elle se trouve là, dans le cerveau. Et c'est dans le cerveau, dans nos pensées, que nous aurons la victoire ou la défaite. C'est comme ça que ça se passe. Toute la suite résulte de ce qui se passe là-dedans. Il faut quand même se le rappeler, il faut quand même s'en souvenir. C'est là le premier domaine du combat spirituel. Et c'est là que ça va se traduire donc, dans le reste de notre existence. Dans la biographie de Jonathan Edwards, nous avons la citation suivante. « J'avais un grand désir pour l'avancement du royaume de Christ dans le monde. Et dans ma prière secrète, il y avait une grande part pour cela. Si j'entendais parler d'un événement qui s'était produit dans le monde et qui pouvait contribuer à l'avancement de la cause de Christ, mon âme s'en emparait avec force. Et combien cela m'animait et me rafraîchissait. Je parcourais les lettres de nouvelles publiques, parce qu'il n'y a pas encore de journaux à l'époque, surtout dans ce but, pour découvrir des nouvelles favorables à l'intérêt de la piété dans mon entourage et dans le monde. » Voilà, donc ça détonne son état d'esprit. Et bon, si vous ne connaissez pas Jonathan Edwards, je vous invite à approfondir vos recherches parce que ça vous expliquera pourquoi cet homme a été un homme puissamment utilisé par Dieu en son temps. Et ainsi, quand nous sommes remplis de zèle pour Dieu, il en est de même pour nous. Où que nous allions, nous allons considérer notre place non seulement comme un lieu de travail, par exemple, mais je dirais même, avant tout, comme un lieu d'utilité pour Dieu. Déjà comme ça. Nous allons en faire notre première pensée. Et si vraiment nous sommes zélés pour Dieu, eh bien nous penserons à l'œuvre de Christ dans le monde, mais nous y penserons dès le réveil. Et nous y penserons jusqu'à ce que nous couchions. Et le Seigneur sera toujours devant nous, avec la gloire, la gloire de son service inscrite dans notre cœur, en y attachant nos réflexions et notre affection. Eh bien, frères et sœurs, que la flamme du zèle puisse embraser notre cœur. Et à ce moment-là, nous aurons la cause de Christ sur ce cœur en tout temps. Amen. Amen. Ensuite, une deuxième chose, c'est que ce zèle pour Dieu va nous faire faire des plans et faire prendre des décisions pour le Seigneur. Je veux dire vraiment nous faire prendre des décisions pour Dieu. Vous savez, il y a des décisions extraordinaires qui ont été prises par des hommes à certains moments, en certaines occasions. Des décisions extraordinaires parce qu'à un moment, ils ont entendu une prédication qui les a touchés ou ils ont entendu un témoignage qui les a particulièrement bouleversés. Alors, ils vont rentrer chez eux et vont dire « Il faut absolument que je fasse quelque chose ». Le problème, c'est qu'ils ne se décident qu'à moitié, voyez-vous. Le problème, c'est qu'ils manquent du cœur entier d'Ézéchias. Alors, leur décision n'aboutit pas à quelque chose de pratique, elle n'aboutit pas à quelque chose de bien défini, ça reste dans les nuages. Donc voilà, comme certains construisent des châteaux en Espagne ou des châteaux dans les nuages, vous savez qu'ils évangélisent dans les nuages. Vous savez qu'ils sont fidèles aux réunions de l'Assemblée, mais dans les nuages. qui vont décider de participer aux missions ou à l'évangélisation, mais encore une fois, dans les nuages, qui vont supporter matériellement l'œuvre de Dieu, mais toujours dans les nuages, qui sont prêts à partir travailler pour Dieu, envoyer des serviteurs de Dieu, mais encore c'est pareil, dans l'abstrait, dans les nuages. Et tous leurs plans sont extraordinaires. Le problème, c'est que les réalisations pratiques sont bien faibles et bien misérables en comparaison. Mais ça reste des rêves insaisissables, hélas. Ce sont de belles images, mais qui se dissolvent finalement, qui se fondent en quelque chose qui va être très pratique pour eux. Et ce quelque chose, malheureusement, ça va être juste le monde. Hein, donc, le monde est ce qu'il contient, parce que c'est pour ça qu'ils vivent. Et pour le reste, c'est de l'illusion. Le reste, il s'illusionne. Mais donnez à un homme du zèle. Et quand il va prendre une décision, eh bien ce sera une vraie décision. Donc à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est mis en œuvre par les bons désirs, qui sont éveillés dans son âme par la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui va se dire, avec le secours du Seigneur, je vais faire quelque chose. Je ne veux pas être juste comme une huître qui gît dans la boue et qui s'ouvre suivant la nourriture que le courant lui apporte. Voilà. Il ne sera pas dit que je vivrai uniquement pour manger, pour boire, pour profiter de la vie et pour aller aux réunions de temps en temps sans plus. Hein ? Donc, Seigneur, par ta vérité, je veux te servir pendant que je suis ici-bas. Et s'il le faut, eh bien, je veux être prêt à mourir pour ta cause. Et en attendant, je veux donner ma vie pour elle. Voilà. Hein. Et il n'y a que ceux qui sont zélés, qui choisissent leurs objectifs et leurs buts et qui persévèrent pour les accomplir finalement, pratiquement. Amen. Et ça nous amène encore au point suivant. C'est que ce vrai zèle va se manifester dans la persévérance. La persévérance aux décisions prises. Eh oui. Quand un homme a le cœur droit devant Dieu, il va lutter jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qui a été résolu, même s'il doit rencontrer de grandes difficultés. Et vous savez, je vais vous dire un secret, il en rencontrera. Ce n'est pas un grand secret, vous me direz. Hein. Mais voilà, il rencontrera des difficultés, c'est certain. Il préférera briser son cœur, il préférera détruire sa santé que de ne pas le faire. Parce que s'il sent que c'est l'œuvre de Dieu, ça doit être accompli. Et Dieu le secourra d'ailleurs. Hein. Dieu ne le laissera pas comme ça. Même dans sa santé, Dieu le soutiendra. Et l'œuvre pour l'homme peut s'arrêter. Mais l'œuvre pour Dieu ne doit pas le faire. Et même de tendres amitiés ne comptent plus quand la cause de Christ est en jeu, quand elle est en péril. Alors c'est vrai, il peut y avoir des échecs. Hein. Tout le monde peut se tromper. On peut rater à certaines fois. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. C'est l'œuvre de Dieu. On recommencera. Hein, donc, peut-être on échoue à nouveau. On tombe, mais on se relève. Vous savez, il y a que ceux qui ne marchent jamais qui tombent jamais non plus. Hein. Ceux qui restent par terre, ils tomberont jamais. Celui qui se lève pour marcher, bien celui-là, il pourra lui arriver de trébucher, de tomber. Mais il va se relever par le secours de Dieu. Et c'est ça l'important. Et voici cet homme donc, qui voit le sommet, qui s'incline dans l'éclat du soleil. Et puis, il a un fardeau sur son dos, mais il a dans son cœur une conviction qu'il lui faut aller sur ce sommet-là. Et le voici qui tombe, je ne sais pas, dans une crevasse en chemin. Et le voilà couvert d'égratignures, le voilà couvert de meurtrissures, le voilà tout gémissant. La première chose qu'il a fait, après avoir essuyé la poussière de son visage, après nettoyer un petit peu ses écorchures, c'est de regarder vers le haut et de dire « je veux monter là-haut malgré tout ». Et il grimpe à nouveau. Mais là, voilà un ennemi qui arrive et qui pour le pousser vers le bas. Et il n'a pas le temps de regarder de quoi il s'agit ou de qui il s'agit, ni de tenir compte de l'insulte. Pourquoi ? Parce qu'il recommence son ascension. Et de temps en temps, il court. Et quand il ne peut plus courir, ben il marche. Et quand il ne peut plus marcher, il rampe le long de la paroi en se disant « c'est là que Dieu me veut, il m'a ordonné de grimper et avec sa promesse divine, je le ferai. Je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas demeurer dans le repos jusqu'à ce que ce soit accompli. » La persévérance, mes frères et sœurs, c'est une conséquence certaine d'un cœur entier pour Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons voir aussi, et ce sera notre dernier point, ce chapitre, vous voir qu'un tel zèle, va entrer dans toutes les parties qui composent notre être, et qui composent en particulier l'homme spirituel. Le zèle, oui, ça va accélérer notre pouls quelque part, ça va faire circuler le sang plus vivement, et ça va faire que de toute façon, on sera déjà en meilleure santé. Mais je dirais surtout, c'est que ces saints stimulants vont faire que l'âme soit fortifiée, et fortifiée de la meilleure manière. Et combien ce feu est nécessaire pour que le sacrifice que le chrétien veut présenter soit agréable à Dieu. La victime doit être consommée sur l'autel. Alors peut-être, oui, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de lumière, peut-être qu'on est encore à moitié dans les ténèbres, peut-être qu'on ne sait pas encore tout. Mais ça, c'est encore pas ça le plus important dans ce cas-là. Hein. Donc, il faut, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, que le feu soit là et qu'il brûle toute la victime, ou alors ce n'est pas un sacrifice qui soit vraiment agréable à Dieu. Oh, qu'il puisse y avoir plus de ce feu. Béni soit Dieu. Hein. Seigneur Jésus, que nous puissions être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Une question qui avait été posée justement dans la réunion des jeunes l'autre fois qu'on avait eue. Ça veut dire quoi être baptisé du Saint-Esprit et de feu ? On avait parlé de cela. Mais surtout, voilà, ce feu de l'ardeur pour notre Dieu dans notre cœur, voilà la grande chose. Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est ça qu'il veut faire dans nos vies. Alléluia, béni soit Dieu. Que nos âmes soient remplies de ta ferveur, Seigneur. Que soit restaurée en nous, Seigneur, l'énergie indomptable de nos ancêtres spirituels, si on parlait comme ça. Délivre-nous, Seigneur, de ces jours de tiédeur, de compromission, où les hommes se courbent toujours dans le sens du vent qui les pousse, afin que, par ton secours, Seigneur, nous soyons fortifiés pour cette course de la justice, des hommes puissants, non par nos propres forces, mais par le Saint-Esprit, qui le serve avec zèle parmi les fils de l'homme. Amen. Amen. Et puis notre deuxième grand point, c'est aussi pour rappeler qu'il y a des arguments puissants pour nous encourager à manifester du zèle. Des arguments puissants. C'est vrai, vous savez, ou bien l'Évangile est la plus grande imposture qui ait jamais eue, hein, qui ne soit jamais imposée à l'humanité, ou alors l'Évangile mérite que tout homme qui a été béni par lui, lui consacre toute sa force et toute sa vie. Vous savez, si je n'étais pas assuré que la parole de Dieu soit vraie et que cette précieuse doctrine est la révélation du ciel, eh bien, je laisserais tomber ça. Je laisserais tomber, c'est vrai. Et j'espère que je ne pourrai jamais connaître l'amour de Christ et rester endormi sur ce point-là. Ou bien, il ne faut pas chercher du tout le royaume et la justice de Dieu, ou alors il faut vraiment le rechercher avant toute chose. Hein, c'est ça la chose. Et souvenons-nous, parce que ce sont des choses solennelles auxquelles nous avons affaire. Nous avons affaire à quoi ? Nous avons affaire aux âmes des hommes. Une âme pour Dieu est plus importante que le monde entier. Nous avons affaire aux âmes des hommes qui sont immortelles, qui sont infiniment précieuses. Nous avons affaire devant Dieu aux intérêts éternels du ciel ou de la perdition. Ce n'est pas de la rigolade ces choses-là. Ce n'est pas des choses de deuxième catégorie. C'est fondamental par rapport à toute notre vie, même sur la terre. Nous avons affaire aussi au péché du pécheur. Et nous aspirons à ce qu'il soit lavé par le sang de Christ en nous-mêmes, bien sûr, et aussi en d'autres. Et qu'il puisse être régénéré, renouvelé par le Saint-Esprit. Et combien on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas plaisanter avec ces choses-là, on ne peut pas les considérer légèrement, déjà. Ensuite, considérer la grandeur de l'œuvre à laquelle nous avons affaire. Là aussi, hein, considérez les dizaines de milliers dans cette ville de Châlons-en-Champagne, dans les régions environnantes, dans les villes environnantes. Considérez ceux qui, de plus en plus nombreux entre nous, sont de vrais païens, vous savez, qui ne connaissent rien de rien de rien aux choses de Dieu. Hein, voilà, et qui aussi païens que s'ils vivaient au centre de la Mongolie ou s'ils vivaient dans les profondeurs de la forêt vierge amazonienne. Voilà, exactement païens, pareil. Sans Dieu, sans Christ, n'entendons jamais l'Évangile, n'entrons jamais dans un lieu de culte du début à la fin de l'année. Et ça, c'est ce travail qui est devant nous. Et c'est ce travail pour lequel nous devons nous ceindre nos reins et nous ne pourrons pas nous permettre d'avoir le cœur partagé dans ce domaine-là. Il faut qu'on réalise ça, il faut qu'on saisisse ça. Vous savez, il y a eu un homme de Dieu qui s'appelait Oswald Smith, donc, qui était un serviteur de Dieu à Toronto, au Canada, et qui était probablement un des plus grands promoteurs des missions, de l'évangile, l'annonce de l'évangile et de l'amour des âmes. Et dans un de ses livres, il raconte l'histoire suivante. Hein. Alors, il reprend le moment, le miracle où Jésus a donné à manger du pain et du poisson à une foule de 5000 personnes, vous vous rappelez, hein, donc la multiplication des pains. C'est dans Matthieu 14, versets 15 à 21. Et il nous rappelle que donc, les disciples ont demandé aux gens de s'asseoir sur l'herbe, par rangée de 50. Et puis ensuite, Jésus a pris les pains et les poissons et les a bénis. Et il a ordonné à ses disciples de distribuer cette nourriture qui se multipliait. Et alors Smith rajoute, est-ce que vous vous souvenez de la façon dont cette distribution s'est faite, hein? Et il a dit, voilà, ils ont commencé à un bout de la première rangée, et ils ont offert une première portion à chacune des personnes assises au premier rang. Voilà. Et vous vous souvenez ce qu'ils ont fait après? Bien après, arrivés au bout de la première rangée, ils ont fait demi-tour, ils ont offert à ces mêmes personnes une deuxième portion de nourriture. Est-ce que vous vous souvenez de ce détail-là? Ben non, vous ne vous souvenez pas parce que ce n'est pas marqué dans les évangiles. Et parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé en réalité. Hein, il le dit. Et il continue en disant, si les disciples s'étaient comportés ainsi, ne croyez-vous pas que les gens assis au dernier rang se seraient levés pour protester en disant, nous n'avons pas encore reçu la moindre portion, nous sommes en train de mourir de faim ici, ce n'est pas juste. Pourquoi les gens du premier rang devraient-ils recevoir plusieurs portions alors que nous n'avons pas encore reçu une seule? Et puis Smith continue en disant, pourquoi quelqu'un devrait-il entendre l'évangile proclamé plusieurs fois à ses oreilles alors que tant de gens ne l'ont encore jamais entendu? Eh oui, et Billy Graham, qui était son ami, donc a déclaré un jour, donc c'était à l'époque, population a encore évolué depuis, voilà ce qu'il a déclaré en son temps, en moyenne, chaque Américain a entendu prêcher l'évangile plus de 1400 fois dans sa vie, alors que 6,3 milliards d'individus sur la Terre ne l'ont encore jamais entendu. Alors bon, vous savez, on n'a pas besoin de partir en mission aux extrémités de la Terre, hein, le champ de mission il est là, hein. Le champ de mission il est là autour de nous, combien de gens autour de nous qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle, voyez-vous? Et si quelque part, même, imaginons, dans le monde, il y avait une heureuse cité, tous les habitants ont entendu la parole, et dont la plus grande partie se soit convertie, là encore, la tiédeur serait inexcusable. Hein. Mais ici même, dans cette ville où nous sommes, où il y a tout à faire, alors est-ce que nous allons rester endormis? C'est la question. C'est vrai que nous avons besoin... Nous avons besoin de crier au Seigneur pour être réveillés, et besoin de demander pardon de ce que nous avons été trop souvent refroidis, de ce que trop souvent nous avons été dans cette situation et que nous puissions vraiment changer. Vous savez, lorsque notre vision s'élargit, combien nous pouvons voir champ de blé après champ de blé, des millions d'âmes immortelles, quand Jésus disait « la moisson est grande ». Et il disait aussi que les ouvriers sont peu nombreux. Est-ce que ces ouvriers, est-ce que ces moissonneurs, est-ce que ces laboureurs vont s'endormir? Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous secoure pour que nous endormions pas, mais que nous soyons zélés pour ces pauvres âmes. Et puis un autre argument, je crois, qui a toute son importance, considérez combien Satan est à l'œuvre. Parce que si nous ne dormons pas, lui, il ne le fait certainement pas. Si nous dormons, pardon, lui, il ne le fait certainement pas. Si nous sommes paresseux, lui, il est assurément toujours très, très, très affairé. C'est Latimer qui disait que le diable, c'est l'évêque le plus occupé du pays. Il disait, il traverse son diocèse de long en large. Il est toujours en train de visiter son troupeau. Il agite en tout temps et hors de temps pour détruire. Considérez l'activité des infidèles, des sectaires. Avec quel zèle il parcourt la mer et la terre pour faire un prosélyte. Considérez combien les choses occultes se multiplient à un rythme effréné, à un rythme effarant. Vous savez, il y a, mettons de cela, 30 ou 40 ans en arrière, lorsqu'on priait pour quelqu'un pour les choses occultes, pour le délivrer des choses occultes, on tombait voilà, sur des choses classiques, du spiritisme, de la magie, voilà, de la cartomancie, de la rhabdomancie, des horoscopes, des choses comme ça. Et puis on priait pour les gens pour ça. Voilà, de temps en temps, il y avait quelqu'un qui avait regardé un film comme L'Exorciste, La Maison du Diable, des choses comme ça. On priait pour délier les gens de ces choses-là et les gens sentaient la différence. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est bien pire. Aujourd'hui, sur Netflix, aujourd'hui, vous avez les séries. Mais les gens, ils regardent ça, c'est rempli de démons. C'est rempli de puissance mauvaise. Les gens sont liés avec ça. Même des chrétiens. Même des chrétiens vont regarder ces choses-là. Et puis, ils les regardent tellement qu'ils s'y habituent. Et ils s'y habituent tellement qu'ils ne sont même plus capables d'avoir la sensibilité spirituelle de réaliser l'état dans lequel ils sont pris. Et on prie aujourd'hui pour ça, vous savez, pour ces choses-là. Le diable agit de plus en plus, hein. Les démons se révèlent de plus en plus. Et c'est de plus en plus considéré comme quelque chose d'habituel. Et les gens, ils fonctionnent avec ça, ils fonctionnent là-dedans. Hein. Et ça nous montre, vous savez, le diable est au travail. Alors qu'est-ce que nous allons faire en comparaison? C'est vrai, l'adversaire est bouillant, l'adversaire est fervent. Et comment sommes-nous? Considérez encore les responsabilités qui sont sur nous en tant qu'assemblée. Dans une assemblée comme la nôtre, nous avons vu des choses merveilleuses s'accomplir de la part du Seigneur, n'est-il pas vrai ? Hein, nous avons vu combien souvent Dieu a béni sa parole pour nos cœurs quand elle était une rosée bienfaisante sur une terre desséchée, alléluia. Et combien on a pu entendre de merveilleux témoignages de la gloire, de l'amour de Dieu et de sa puissance. Combien de fois on a pu expérimenter la guérison miraculeuse, la délivrance pour nous-mêmes ou pour d'autres autour de nous. Et quelle œuvre merveilleuse de changement, de transformation a été accomplie par le Saint-Esprit en plusieurs. Et quelle connaissance des choses de Dieu est dans l'esprit de plusieurs d'entre nous aussi par cette édification que nous avons reçue au travers de l'Église. Et Dieu donc a voulu donner une assemblée, Dieu a donné des ministères. Et nous dormirions et nous resterions ingrats. Nous avons des opportunités, nous avons des occasions de faire le bien, des occasions de témoigner, de faire le meilleur des biens. Je dirais comme des chrétiens d'autres générations en ont rarement eu dans le passé. Nous avons ces opportunités qui sont là et que nous puissions être trouvés fidèles à notre responsabilité, à notre charge pour que Dieu puisse nous bénir et que nous n'héritions pas d'une malédiction. Amen. Alors si on a encore besoin d'être réveillé, voici devant nous le fleuve de la mort qui emporte des millions d'âmes. Ah, le voilà, le grand tabou de notre monde actuel. Hein, c'est la mort, bien sûr, mais ce qui se passe après la mort. Ah, ça, on n'en parle pas. Ah, on n'en parle pas. Et pourtant, quelle inéluctable réalité qui nous attend tous. Hein, donc, on va aller devant cette chose. Hein. Et voici devant nous le cri d'âmes mourantes de beaucoup d'hommes, de beaucoup d'âmes. Et écoutons les gémir, entendons leurs plaintes lamentables. Voilà quelqu'un qui dit « Personne ne s'est occupé de mon âme. Grand Dieu, j'ai vécu dans une ville où il y avait une assemblée, mais personne ne s'est occupé de mon âme. J'habitais, j'ai vécu dans telle cour, dans telle ruelle, dans tel immeuble. » Des chrétiens passaient dans cette cour, dans cette ruelle, descendaient l'escalier pour aller à l'assemblée et ils n'ont jamais pensé à moi. J'ai vécu en voisin d'un chrétien, mais est-ce qu'il a jamais prié pour moi ? Et voilà encore une autre âme qui descend en perdition. Et pendant que nous parlons, une autre et encore une autre. Et écoutez cette chute solennelle et le mouvement de ces eaux sombres qui se referment sur ces âmes qui se noient. Comme les masses d'eau tombent aux chutes du Niagara, ainsi les vagues d'âmes roulent en perdition. Et c'est nous que Dieu a envoyés pour être les témoins dans ce monde, pour être les porteurs de ce message du salut. Est-ce qu'on va gaspiller son temps ? Est-ce qu'on va négliger cette charge ? Des pestes ténèbres se sont abattues sur toutes les nations. C'est de plus en plus le cas. Et ce ne sont que les disciples de Jésus, que ceux qui suivent Christ, qui peuvent porter cette torche enflammée, je dirais, dans cette nuit-là. Et c'est pour cela que c'est nous qui devons être ceux qui délivreront ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et qui sont liés là, dans la misère et dans les chaînes. Alors est-ce qu'on va se croiser les bras ? Est-ce qu'on va simplement voilà, donner au monde, à nous-mêmes, ce qui appartient à Christ en réalité ? Quel cœur de pierre nous devons avoir si nous ne ressentons pas les terreurs de cette perdition qui sont autour de nous, hein. Quelles entrailles de granit si nous croyons que les hommes sont perdus, mais que nous ne faisons rien pour eux. Et si aujourd'hui quelqu'un parmi nous peut se dire « il faut que je fasse quelque chose pour gagner ces pécheurs à Christ », combien le Seigneur va l'encourager, combien le Seigneur va l'approuver et le soutenir. Amen. Et je dirais enfin que l'argument suprême pour servir Christ de tout cœur, eh bien, c'est très certainement l'amour que nous avons reçu de lui. Oui, c'est vrai. Comme cet amour a été manifesté, lorsque vous ouvrez les yeux de votre cœur, vous pouvez regarder, vous pouvez le voir qui est pendu là, lorsqu'il meurt pour nous sur cette croix. Sa tête est couronnée d'épines, ses pieds sont percés de clous, ses mains sont dégouttantes de sang. Jésus, Maître, tu meurs pour moi. Le précieux sang de ton propre cœur coule pour ma rédemption, pour ma purification, pour ma guérison et pour ma délivrance. Et comment faire autrement que de tomber à tes pieds et de les embrasser ? L'amour de Christ nous presse. Oui, c'est vrai, toi qui es mort pour les pécheurs, qui est mort pour les rebelles, qui est mort pour les indifférents, qui est mort pour les ennemis, qui est mort pour moi. Mais est-ce que je vais ensuite me relever et repartir dans le monde et oublier tout ça? Est-ce que je vais contempler sa face et ne jamais pleurer sur les âmes? Est-ce que je vais voir ses blessures et ne jamais avoir un cœur blessé pour les pécheurs, un cœur blessé pour les perdus? Combien il nous faut crier à Dieu? Crier à Dieu qu'un véritable et profond amour des âmes grandisse dans nos cœurs et en même temps, comme il faut que nous mettions vraiment à l'œuvre sur ce point-là. Lorsque les habitants de Sparte, les Spartiates, sont partis au combat, chacun d'entre eux était extrêmement motivé, prêt à combattre, prêt à lutter. Pourtant, ils allaient vers un ennemi d'une immense puissance, l'armée perse. Ils étaient eux-mêmes peu nombreux, ils étaient quelques centaines. Mais l'histoire nous rapporte qu'ils sont allés à cette guerre, à ce combat en chantant. Selon la bataille, vous aurez pu entendre leur chant. Mais lorsque les Perses allaient à la bataille, par dizaines, dizaines de milliers qu'ils étaient, vous pouviez entendre en même temps que les régiments qui s'avançaient, le claquement de fouet que les officiers utilisaient pour pousser leurs troupes au combat. Alors ne nous étonnerons pas qu'à la bataille des Thermopyles, au défilé des Thermopyles, quelques centaines de Spartiates ont infligé une défaite à cette immense armée. Donc pourquoi ? Donc ils étaient comme des lions au milieu des brebis. Et je dirais qu'ainsi en est-il des fidèles zélés. Ils n'ont pas besoin d'être fouettés pour se mettre au travail. Mais le Seigneur les remplit de sa puissance pour lutter contre ce qui est contraire au royaume de Dieu. Le Seigneur soutient ceux qui ont ce cœur entier. C'est alors qu'ils vont être fortifiés en esprit et physiquement. C'est alors qu'ils vont être comme des lions quelque part au milieu du troupeau de leurs ennemis. Vous marcherez, dit le Seigneur, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, alléluia, a-t-il dit. Alors, c'est vrai, la vie véritable va couler en eux. C'est alors qu'ils peuvent franchir une muraille, comme dit David. Ils peuvent se précipiter sur une troupe en armes, comme il dit encore. C'est alors que leur force se renouvelle pendant la marche. C'est alors qu'ils servent véritablement Dieu et accomplissent une œuvre éternelle. Amen, amen. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté envers nous. Nous te remercions pour ton immense amour. Nous te remercions pour la cause merveilleuse de l'Évangile que tu as mise devant nous, pour que nous puissions nous confier en toi et que nous puissions nous attacher à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ce zèle puissant que tu veux encore fortifier dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te remercions pour l'esprit de décision que tu veux affermir tout spécialement en plusieurs d'entre nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu veux vraiment agir puissamment pour que nous puissions avoir ce cœur comme Ézéchias l'a eu, Seigneur. Ce cœur entier pour toi. Ce cœur vraiment que tu puisses soutenir et auquel tu puisses accorder vraiment toute cette réussite. Ce cœur persévérant, ce cœur décidé. Merci notre Dieu, louange à toi. Béni sois-tu pour l'œuvre que tu fais encore au milieu de ton peuple, dans chacune et dans chacun d'entre nous, pour qu'il puisse en être réellement ainsi. Nous te louons de tout notre cœur et nous te bénissons encore maintenant et nous croyons que tu veux encore agir dans ton amour, dans ta bonté, dans ta puissance. Nous te bénissons notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia.